Show. 10h38, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je suis accompagné d'Audrey Pinchot, qui a vécu un 3 jours intense à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Abbaye.ca, je pense que c'est le site internet pour aller voir. Puis je regardais tantôt les images. T'as-tu été voir sur leur site internet?
Mais oui, c'était cœur. Hein?
C'est des images en drone.
Oui.
Qui montre à quel point l'abbaye, c'est de toute beauté. Moi, j'y avais été, c'était au printemps, début du printemps. Donc, tu sais, j'avais pas encore toute la verdure qui était là. Il restait encore un peu de neige, bien entendu.
C'est ça, là.
Mais les images avec le drone, là, te montrent l'abbaye en plein été. C'est de toute beauté.
Mais l'automne, si vous avez la chance d'y aller l'automne, là, moi, c'est là que je vais retourner. Ça doit être complètement magique avec les couleurs.
Exact. Un peu comme aujourd'hui, c'est complètement magique la température. On est autour de quoi? 7-8 degrés. Voilà, c'est ça, 7-8 degrés ensoleillés pour aujourd'hui. Maximum de 14. Ça peut monter jusque-là. On va être très heureux. Minimum de plus 4 degrés pour ce soir et cette nuit. Peut-être un peu de pluie cette nuit, c'est ce qu'on nous mentionne, parce que demain, tout au long de la journée, ce sera de la pluie, maximum de 8. Mercredi, de la pluie intermittente, maximum de 7. Jeudi, un ciel dégagé avec un maximum de 7. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 12 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Je vous rappelle que ce soir, Ivan Dominov pourrait faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey contre les Blackhawks de Chicago. Parce que le Canadien joue à partir de 19h.
Mais là, ça n'a pas été confirmé, là, qu'il a embarqué sa glace encore.
Ça, il pourrait. C'est pour ça que je l'ai mis au conditionnel.
Il faudrait.
Oui, mais faudrait. Il pourrait. Y es-tu prêt?
Ça
je pense
va
que
arriver.
Oui. J'ai regardé des images de ses pratiques dans les deux derniers jours, puis ça semble bien aller. Là. Il y a une couple de défenseurs qui étaient sur l'équipe de pratique qui ont vu un Ivan Demidov qui, lui, avait l'intention de jouer ce soir. Fait que j'ai bien hâte de voir ce nouvel arrivant chez le Canadien de Montréal en espérant qu'on confirme notre place en séries éliminatoires. Notre invité pour les prochaines minutes, c'est Julie Nadeau. Elle est travailleuse sociale en milieu policier. On est très content de l'accueillir. Salut Julie.
Hey, bonjour, merci.
Est-ce que c'est ta première fois que pour toi en radio?
Non.
C'est pas ta première fois.
Mais c'est la première fois avec vous autres.
Mais c'est la première fois.
On se rappelle toujours de notre première fois
et voilà.
Espérons que ce sera pas la dernière fois, Julie. Travailleuse sociale en milieu policier. Bon, définis-nous ce que c'est qu'une travailleuse sociale, puis après ça, tu nous définiras ce que c'est que travailler dans un milieu policier.
Parfait. Bon, une travailleuse sociale, en fait, c'est une personne qui est là pour offrir de la relation d'aide à quelqu'un qui va pas super bien, hein, parce qu'on gère pas le bonheur de personne. On a quand même un spécifique assez particulier. On parle souvent des psychologues, les travailleurs sociaux. On ne travaille pas juste à la DPJ. Important de faire ce mythe. Donc, notre objectif, c'est d'aider la personne, mais en tenant compte des facteurs environnementaux. Donc, la culture, ce qui se passe autour, les politiques sociales, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moyens d'offrir de l'aide à ces personnes-là? Le côté masculin, moi, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Je suis dans un milieu de gaga. Alors, voilà, c'est ça, une travailleuse sociale.
Donc, différence entre la psychologie, justement, puis travailleur social, je trouve comme c'est important qu'on fasse la distinction parce que souvent, les gens ont tendance à dire, même au quotidien, « Hey, ça va pas, je vais aller voir un psy. » Moi, je vois une travailleuse sociale depuis un peu plus que 2 ans, 2 ans et demi, puis je veux dire, moi, ça a fait la différence dans ma vie, là. Mais peut-être instaurer, justement, le parallèle.
Bien, en fait, on a souvent cette demande-là, puis on a l'air de la version « wish », des fois, des psychologues.
Bien oui,
ce qui est pas le cas.
C'est ça, c'est pour ça que je veux qu'on en parle.
Donc, on a vraiment les facteurs environnementaux un peu plus à cœur. Je ne dis pas que les psys ne l'ont pas. Y a des gestes qu'on ne peut pas poser. Là, je ne tomberai pas dans la loi sur la psychothérapie.
Ouais.
Mais on est là pour venir en aide. Moi, mon approche, elle est très terrain. Je vous dirais que j'ai souvent mes bottes à cap dans les pieds et j'embarque sur la route avec les policiers, pompiers, paramédics. Et je fais de l'intervention live quand ça se passe. Donc, je suis dans l'ici maintenant avec eux. Puis, je tiens compte des facteurs culturels, c'est-à-dire le milieu masculin, le milieu qui a de la misère à demander de l'aide. Ça, c'est très concret dans ma pratique. Et aussi de leur réalité. Puis je parle police, pompiers, paramédics, parce que c'est des langues avec des codes radio. Puis
c'est différent,
c'est très différent. Ouais.
Okay. Comment ça fonctionne? Mes grands-parents, ils étaient dans la police, puis ils m'ont jamais parlé d'une travailleuse sociale qui travaillait en milieu policier. Comment ça fonctionne? C'est les gars qui communiquent avec toi, puis qui disent « Julie, j'ai entendu parler de toi, de tes services. J'aimerais ça te rencontrer en tant que travailleuse sociale. » Puis c'est quoi les premières rencontres? De quoi ça a l'air? Fais-moi rentrer dans ton merveilleux monde.
Oui, avec plaisir. Bien, en fait, ils peuvent entrer de plusieurs façons. Ils peuvent rencontrer soit directement en communiquant avec moi, soit en faisant une demande via la Vigile, qui est un organisme qui vient en aide aux intervenants d'urgence depuis 25 ans, ou encore c'est les organisations qui m'engagent. Fait qu'il y a quand même trois voies d'accès différentes. Et ben, souvent, quand les gens demandent de l'aide, ils sont tellement cute à la première rencontre, souvent ils me disent « Ben là, je sais pas comment ça marche, il va falloir que tu m'expliques, puis là, je sais pas pourquoi je suis ici, puis là, là, ils essayent de me faire un rapport d'événement de ce qui vient de se passer. » Puis là, je fais « Hey, on va y aller comme tu le files, puis laisse-moi driver un peu. » Ils ont de la misère à être dans la posture de l'aider.
Ouais.
C'est eux les aidants d'habitude. Fait qu'il faut vivre avec cette réalité-là. L'humour est très présent. J'en parlais avec Dani tantôt dans le milieu. C'est un milieu qui a un humour assez particulier, que j'appelle affectueusement l'humour louche. Donc, ben, ça fait partie des séances aussi. Il faut être prêt à entendre leur façon peut-être de tenir leurs émotions à distance de bras. J'ai envie de le dire comme
ouais.
ça. Oui, ils sont charmants. Je les aime profondément depuis 28 ans. Mais c'est ça. Fait que c'est ça la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vais être là quand ils ont des besoins. Moi, je fais principalement de l'intervention de crise.
Okay. Mais est-ce que les gars sont désorganisés quand ils font affaire avec toi? Je vais t'aider un peu parce que je vois que tu as de la misère avec tes écouteurs.
Oui.
Juste le détwister.
Détwister, merci.
Voilà.
C'est bon. Merci.
Donc, moi, là, je t'assis, est dans un café, puis je te parle. Bon, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à faire mon travail parce que j'ai quelques difficultés.
Ouais.
C'est quoi les difficultés que nos policiers peuvent rencontrer qui fait en sorte qu'on se ramasse devant une travailleuse sociale?
Bien, moi, c'est principalement le trauma que je fais. Donc, intervention après un événement potentiel traumatique. Donc, décès, blessure grave, infraction de caractère sexuel. C'est vraiment ça, mon spécifique. Puis dans des cas de demande d'aide par rapport au suicide. Moi, c'est mes deux, je dirais, dada. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a une séparation. Ça peut être parce qu'il y a des enjeux avec les enfants. Ça peut être parce qu'il y a une difficulté d'adaptation. Je pense à mes policiers SQ qui sont déployés partout à travers la province. Le policier part, je dis n'importe quoi, Québec métro, puis il est transféré aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, ça se peut que l'adaptation soit pas tout à fait facile.
La même chose, oui.
Absolument. Donc, moi, je m'intéresse principalement aux enjeux qui touchent le travail, puis comme je dis, principalement le trauma. Donc, des fois, ça arrive qu'ils sont tout brisés quand je commence l'intervention.
Puis c'est normal, tu sais, je sais pas Audrey, mais on s'imagine jamais tomber sur un enfant décédé.
Mais non.
Durant une tragédie, que ce soit parce qu'il a été tué ou que ce soit parce qu'il y a eu un accident, puis toi, ben, tu dois être le premier à constater ça. Ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes-là voient des choses que le commun des mortels ne verra jamais, et ils doivent vivre avec ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un événement qui est particulier, mais moi, je vous ai déjà raconté l'histoire du gars qui est passé en dessous de l'autobus du RTC sur Laurier. J'ai réagi, je suis allé l'aider, je suis rentré faire mon corps de travail, finir le corps de travail que je faisais. Puis c'est le soir où là, je suis allé prendre ma douche.
Ça t'a rentré
dedans. Là, j'ai revu ces images-là, je me suis dit, mais voyons donc, tu sais, c'est... Puis moi, ça n'a pas été un gros traumatisme, mais je l'ai vécu par la suite. Si tu accumules ces histoires-là qui sont hyper négatives parce que tu ne veux pas voir ça, si tu n'en parles pas, ça doit être épouvantable.
Bien, c'est intéressant l'exemple que tu amènes, Yann, parce que les policiers, ce qu'on sait avec les statistiques canadiennes, c'est qu'ils vont rencontrer entre 600 et 850 événements potentiels traumatiques dans une carrière, alors que monsieur, madame, tout le monde peut en avoir 2 à 3 dans sa vie. Fait, quand on parle de surexposition, on parle d'un cumul qui s'installe, puis on parle aussi des difficultés de ces gens-là d'en parler, parce que souvent, les gens vont leur répondre, « Mais tu as choisi ce métier-là. » OK, j'ai choisi ce métier-là, mais j'ai pas choisi les scènes sur lesquelles je vais être assignée. J'ai pas choisi non plus toute l'émotivité des gens qui vont être sur place, parce que ça aussi, c'est un facteur qui est extrêmement important. C'est rarement le fait d'avoir un décès, une personne décédée en avant d'eux qui est difficile. C'est plus toutes les réactions des gens autour, des personnes qui l'ont trouvé, de l'état de choc des victimes, la famille, les voisins, les wéreux, parce que le wéreux d'Amérique n'est pas en voie de disparition. Donc ça, c'est toutes les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé. Donc ça ajoute quand même un fardeau à ces personnes-là. Puis moi, un souci que j'ai, c'est aussi le Bureau des enquêtes indépendantes. Les policiers peuvent être enquêtés à la suite d'un décès ou d'une blessure grave qui est commise dans leur intervention. Donc, d'avoir, par exemple, à faire feu sur quelqu'un, que la personne décède, c'est déjà traumatique. D'avoir à faire des manœuvres sur cette personne-là, deuxième trauma. Et le troisième, c'est d'être enquêté puis d'attendre peut-être un an avant que le BEI dépose, Bureau des enquêtes indépendantes, dépose son rapport. Donc, on est à 3 traumas cumulés dans le même événement. Et comme je vous dis, moi, ce que j'essaie de plus défaire, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer que ces gens-là, même si on choisit ce métier-là, sont pas nécessairement prêts. Puis leur cerveau, mais c'est un cerveau d'humain, normal.
Ouais. C'est comme un métier où ils n'ont pas le droit à l'erreur. T'sais, nous autres, on peut en faire n'importe quand des erreurs, mais les règles d'engagement pour un policier avant de faire feu, c'est est-ce que ma vie est en danger ou la vie de quelqu'un d'autre est en danger? Mais si le jeune a un gun à plomb, puis le policier, il ne sait pas que c'est un gun à plomb, puis le jeune, il pointe le policier. Le policier est en mesure de tirer là, à ce moment-là. S'il fait, puis après ça, il se rend compte que c'est un gun à plomb.
Tu t'en veux, j'imagine.
Ben, tu t'en veux. Clairement. C'est pas de ta faute. Mm-hmm. T'avais raison de tirer, mais là, t'as le bureau d'enquête sur le dos en plus. Ça doit être hallucinant ce que ces hommes-là et ces femmes-là vivent.
Absolument. Puis rajoutez à ça ce que j'appelle le tribunal populaire du Québec, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui vont donc avoir une opinion sur le dit policier parce que c'est un gun à plomb, puis franchement, il aurait pas dû. Puis je dis pas que dans tous les cas, ils sont tous blancs comme neige, je sais pas ce que je dis, mais je veux dire, il y a un fardeau de stress incroyable avec ces situations-là.
Tu sais, il y a un policier, dans les derniers jours, un policier de la Sûreté du Québec qui a mis fin à ses jours. C'est épouvantable. Puis, tu sais, j'en parlais hier à maison, puis il y a quelqu'un qui a eu comme réflexe de me dire « Ouais, mais ces gens-là, ils ont quand même une belle vie, là. Tu sais, t'es policier, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas l'âge pour comprendre encore, tu sais. Mais, tu sais, il est policier, il gagne un bon salaire. Oui, mais c'est parce que, justement, il fait des affaires que toi, tu feras probablement jamais dans ta vie. C'est difficile à comprendre, tu sais. Puis, quand... moi, je trouve que c'est une preuve de force, Julie, quand les policiers et les policières disent « Julie, j'ai besoin d'aide. »
Absolument.
Parce qu'ils ne sont pas habitués de s'ouvrir, ces gens-là. Puis, rendu à la maison, ton conjoint, ta conjointe, même si c'est supposé être ton coussin, elle ne comprend pas nécessairement
pas
ce que
réalité.
Tu vis.
Ben est-ce que ces gens-là demandent de l'aide ou tu imposes l'aide dans ton quotidien?
Majoritairement, les gens vont finir par demander de l'aide. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que dans les dernières années, ben moi, ça fait 28 ans que je pratique, là, j'ai vu vraiment un changement au niveau de la demande d'aide. Les gens sont beaucoup plus enclins à demander de l'aide. Quand moi, j'ai commencé à la fin des années 90, je m'excuse, c'est pas 2025, mais je me faisais dire on n'est pas des momounes, on ne demandera pas d'aide, ça n'a pas rapport. Et il y allait en thérapie avec un grand thérapeute qui s'appelle Jack Daniels. Donc, on avait beaucoup de consommation.
C'était vraiment...
Oui, c'était ça. Maintenant, les gens sont plus enclins à demander de l'aide, mais dans tous les cas, c'est pas nécessairement ce qui est fait. Quand on voit des suicides, à chaque fois, je le poste ailleurs sur mes réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un intervenant d'urgence qui passe à l'acte, je me dis, Caroline, on a des ressources, on a un filet de sécurité. Je blâme pas la personne, là, c'est pas ça, mais ça me fait de la peine à chaque fois. Puis j'ai le cœur en miettes d'avoir quelqu'un qui passe à l'acte. Puis je suis pas là pour juger, je sais pas c'est quoi sa situation, cette personne-là, mais clairement qu'on se dit à chaque fois, Caroline, on a-tu échappé une occasion d'aider? Là?
As-tu des genres de statistiques du taux de suicide dans les métiers d'urgence? J'imagine que c'est différent aussi, paramédics, policiers, pompiers, mais...
Bien, il y a une particularité, on n'a pas de statistiques parce qu'au Québec, on fonctionne pas comme ça, éventuellement, peut-être un jour, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du passage à l'acte, les intervenants d'urgence, parce que là, on parle des polices aujourd'hui, mais j'aide tous les intervenants d'urgence, ce qu'on constate, c'est que il y a deux choses importantes. Un, ils ont de la misère à demander de l'aide, puis quand ils en demandent, puis qu'ils sont amenés à l'hôpital contre leur gré, ce qu'on appelle la P38, souvent, ils savent quoi dire à l'hôpital pour être ressortis aussi rapidement, parce qu'ils connaissent l'architecture légale. Et dans un deuxième temps, c'est quand ils passent à l'acte, c'est rarement une tentative. C'est plus rarement un décès. Plus souvent, un décès. Donc, ils savent quels moyens utiliser pour que ce soit létal. Ça, c'est vraiment une particularité qu'on a. Les stats, bien, ça dépend parce qu'au Québec, le bureau du coroner ne compile pas par métier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils font partie des endroits où est-ce qu'il y a le plus de décès par rapport aux tentatives. Mm. C'est ce que je peux vous dire à l'heure actuelle.
Qui paye Julie Nadeau, travailleuse sociale en milieu policier, quand un policier fait appel à toi? Est-ce que c'est lui qui doit débourser de ses poches ou c'est le corps de police?
Bien, il y a plusieurs cas d'espèces. Il y en a que c'est eux qui payent. Il y en a que c'est leur assurance. Il y en a que c'est leur syndicat. On a vraiment beaucoup d'affiliations. J'ai ma petite gourde de la PPQ qui est le syndicat de la sûreté aujourd'hui. C'est pas volontaire. Donc, on a beaucoup de syndicats qui offrent à leurs policiers, à leurs policières, même chose au niveau des paramédics. Au niveau des paramédics, si je peux me faire une petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui défraient ces coûts-là. Donc, il y a des compagnies qui vont m'embaucher. Je vais faire, par exemple, un quart de travail par mois avec eux. Je vais aller faire des rencontres en caserne. Par la suite, je m'en vais sur la route. Donc, on a vraiment des façons très différentes d'avoir accès à des services. Mais assurément, que sinon, ils ont l'assurance. Là, si ce n'est pas l'employeur ou le syndicat, l'assureur est là.
Peut-être, Julie, avec tout ce qui est choc post-traumatique, puis il y en a énormément dans ces métiers d'urgence-là. Bon, j'ai lu sur ton site, puis on en jasait, tu fais des suivis à court terme. La première question qui m'est venue en tête, c'est... individuellement, comme simple citoyenne sans choc post-traumatique, là, un suivi à court terme, moi, ça n'a pas été nécessaire pour moi. Il a fallu que j'aie cherché de l'aide supplémentaire pour mes petites bébites du quotidien. Fait que pour quelqu'un qui a ce quotidien-là qui est rempli de traumas, En quoi ça aide, en fait, un suivi à court terme? Puis où c'est que tu les envoies après?
Bien, court terme, c'est souvent quand c'est un debriefing. Donc, le debriefing, c'est une méthode qu'on utilise encore dans les milieux d'urgence qui a été bannie là, dans la population civile. Je ne partirai pas là-dessus un matin. Sauf qu'on va voir en une, deux, trois, quatre séances avec la personne juste à donner du sens à ce qu'elle a vécu. En fait, ils ne sont pas à ce moment-là en trouble de stress post-traumatique. Moi, j'appelle ça des scratchs dans le cerveau. Donc, chaque fois qu'il y a un événement potentiel traumatique, il y a une scratch sur le disque dur. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir un sens qu'on donne à cet événement-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le debriefing, qui est la période très court terme. Si jamais ils ont besoin d'aide pour quelque chose qui est plus cristallisé, qui devient un trouble de stress post-traumatique, là, c'est là que les psychologues peuvent être utiles. Moi, j'ai une liste de psychologues qui sont spécialisés en trauma à qui je vais référer.
Tu rediriges, là.
Absolument. Donc, on les laisse pas tomber.
La différence, est-ce que tu fais encore des suivis avec le monde normal ou tu es vraiment maintenant 100 % avec les...
J'en ai jamais fait, moi.
Ça a toujours été l'urgence.
Avec eux, oui.
Mais?
Ben oui.
Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée directement avec ces métiers d'urgence-là? Parce qu'il faut que tu y penses, là.
Je suis une police ratée.
Arrête!
C'est ça, la vraie
histoire. T'es-tu sérieuse,
Julie? J'ai été initiée en scène de crime, moi.
Je suis une police ratée.
Hey, je suis super contente, j'adore ma job, là, que ça soit très clair. Mais à la base, je voulais être policière. Moi, depuis que je suis une gamine, ma mère vous dirait la blague que j'ai dit police avant papa, maman. Donc, passionnée de la police depuis tout petite. Je courais avec mon petit vélo à trois roues après les interventions.
Quand j'ose avec des ex-militaires, je ne sais pas si c'est encore le cas, je sais qu'il y a des militaires qui nous écoutent, 418-971-1021, envoyez-moi ça par texto, mais anciennement... Quand tu avais besoin d'aide, quand tu étais militaire, à la base militaire de Valcartier, il fallait que tu montes au deuxième
l'escalier
étage.
L'escalier de la honte.
Puis ils appelaient ça l'escalier de la honte. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais de plus en plus, il y a des gens qui ont arrêté d'appeler ça des escaliers de la honte puis qui ont vu ça comme un service d'aide. Puis c'est de plus en plus... Il n'y a plus de monde qui se font écœurer parce qu'ils vont demander de l'aide quand ils sont dans l'armée. Tu n'as pas l'air d'être d'accord avec ça. mais quand les policiers te demandent de l'aide, puis en plus, tu peux aller avec eux sur le terrain, je trouve ça bien parce que ça montre aux autres policiers qu'il y a d'autres policiers qui font appel à des travailleurs sociaux pour leur travail. T'as-tu remarqué justement que c'est de moins en moins... négatif aux yeux des autres, faire appel à une travailleuse sociale?
Absolument, c'est moins négatif, sauf que souvent, ce que les gens vont faire, c'est comparer l'événement déclencheur comme étant... si c'est un décès d'enfant, c'est correct qu'ils partent en arrêt, mais si c'est une dame de 102 ans qui est décédée chez eux puis qui a fait l'annonce de décès, ça, c'est moins bon. Fait que des fois, ils comparent l'événement alors qu'il faut retenir le pack-sac du 600 à 850. Là. Fait que c'est peut-être la goutte de trop, la madame de 102 ans.
Est-ce que je me trompe que c'est même au-delà de ça? Parce que l'an passé, ça fait presque deux ans, en fait, j'ai eu la chance de passer une journée avec deux paramédics sur la rive sud de Québec. Deux incroyables paramédics, je veux les saluer, là, Stéphane puis Sylvain. Puis à un moment donné, on a jasé justement de certains de leurs traumas. Puis il y en a un qui me racontait que des fois, le trauma est simple comme tu fais un lien avec ta vie personnelle. Ouais. Par exemple, une vieille dame qui est décédée seule dans son appartement, si ça te fait penser, je sais pas moi, à ta grand-mère qui est décédée seule puis que ça a été un traumatisme plus jeune pour toi, bien, ça peut être assez pour caler le reste de ta journée off parce que ça vient te déranger ton mental puis t'es plus assez focus pour continuer, finalement, ta journée comme du monde pour aider les autres. Tu sais, des fois, ils disent qu'il faut que tu prennes soin de toi avant d'aider ton prochain, là. Et fait que des fois, j'imagine que ça peut être aussi banal que ça. Fait que j'ai de la misère à concevoir que ces gens-là comparent les traumatismes.
Il me reste l'ouvrage à faire avant ma retraite, c'est la bonne nouvelle, mais oui, il reste...
Un autre 28!
Reste, oui, je suis prête. Mais il reste cet enjeu-là, je pense, à changer. Mais t'as raison, Yann, que c'est moins... Tu sais, l'escalier de la honte, je l'ai entendu souvent. La parade des fous aussi, là, quand c'était le temps d'aller rencontrer le médecin. Je l'entends encore de temps en temps chez les militaires, mais on a moins tendance à s'auto-stigmatiser. Parce que c'est ça, hein, c'est de se mettre une étiquette dans le front puis de se traiter de fou puis de malade. C'est pas ça, aller consulter. T'es ton principal outil de travail, comme tu viens de dire, Audrey. Fait que même si t'as le meilleur équipement du monde, si toi, tu vas pas bien, c'est pas facile.
Ouais, j'avais déjà parlé avec des policiers de la ville de Québec. Là, je sais pas, dans les derniers mois, on dirait que c'est un peu plus tranquille au niveau des communications avec les médias, ce qui fait en sorte qu'on a moins accès à eux. Mais les policiers nous mentionnaient régulièrement que 80 % des interventions au centre-ville de Québec, ça touchait la santé mentale et qu'eux n'étaient pas nécessairement formés comme vous l'êtes en santé mentale ou comme un psychologue ou un psychiatre pourrait l'être. Est-ce que tu vois d'un bon oeil qu'à un moment donné, on puisse police jumelée des travailleurs sociaux avec des policiers lors de patrouilles au centre-ville de Québec?
Absolument. Ça se fait dans plusieurs services au Québec. C'est très intéressant. Sauf qu'il ne faut pas penser non plus, je vais défendre les TS, faut pas penser non plus que c'est une panacée puis qu'on va tout régler avec ça. Tu sais, quelqu'un qui est en délire agité, puis là, je regarde Dany parce que tu en as certainement vu sur des informations.
Parce que Dany est en délire agité.
Dany est en gros souvent. Délire.
Dany Morissette, en pensant, notre ex-collaborateur là, qui est un ancien policier à la SQ.
Mais quand la personne n'a plus de contact avec la réalité, même si tu es le meilleur psychiatre au monde en avant de toi, je veux dire, quand on ne peut pas établir une communication, ouais. C'est sûr que c'est plus difficile. Il y avait un super de 3 articles ce matin dans la presse où il parlait des contentions puis des difficultés. On ne peut pas faire de miracle non plus, mais c'est sûr que les appels en santé mentale, c'est plus que 80% selon les statistiques du ministère de la Sécurité
publique.
C'est
gros, là.
C'est incroyable. Et il y a une composante. Ce n'est pas nécessairement que c'est la majeure, mais c'est ce qu'on va retrouver. Donc, on demande aux policiers avec 75 heures de cours en santé mentale de devenir des experts de la santé mentale. Et je suis désolée, ça ne se passera pas, là.
Ta santé mentale, à toi, elle va comment? Parce que c'est ton métier d'aider les gens constamment, mais j'imagine qu'après 28 ans, puis tu me sembles super énergique, super pétillante, mais tu sais, des fois, derrière ça, à maison, tu te rends compte que peut-être que ça peut être difficile.
Ça va bien. Moi, j'ai de la supervision. Une chance que j'ai de la supervision. Oui, oui. Ouais. Moi, ça me prend ça. J'ai la chance aussi de travailler avec le docteur Alain Brunet, qui a mis sur pied une thérapie sur le trauma, qui guérit le post-trauma en 6 séances. Donc, moi, la science, pour moi, c'est très aidant. Fait que d'aller lire là-dessus. Quand moi, j'ai commencé, quelqu'un qui était en post-trauma, il était déclassé. On le sortait de la police, on le sortait de l'ambulance parce qu'il n'y avait pas de possibilité de rémission. Maintenant, on voit des avancées spectaculaires. On voit des gens qui vont mieux. Moi, ça, je carbure à ça de voir mes. Je les appelle mes cocos, là. Je suis très possessive et très maternelle avec mes clients. Fait que quand mes cocos vont bien, on dirait que je suis très contente. Fait que c'est ce qu'on appelle de la satisfaction de compassion. C'est fort utile.
Puis comment ça, tu travailles plus avec l'homme que la femme? C'est-tu parce que dans ces métiers-là d'urgence, il y a moins de femmes de ce que tu observes ou c'est juste que toi, tu es vraiment redirigée vers l'homme?
Non, c'est que la culture, même chez les femmes dans les milieux d'urgence, il y a encore une culture à prédominance masculine. Fait que même si c'est des femmes, la demande d'aide est quand même difficile. Fait que c'est pas, on fait pas de lien avec t'es-tu né homme ou femme, on est plus dans une culture ambiante. Fait que c'est difficile. Mais il faut se rappeler que c'est eux les aidants d'habitude. Puis là, on leur demande d'être les aidés. C'est pas évident. Donc,
puis quand t'es dans en patrouille avec eux, qu'est-ce que tu fais exactement?
Je suis partout. si je passe à l'ambulance, par exemple, on va faire, mettons l'exemple ici à Québec avec la CETAC, tu sais, je vais aller faire la tournée des centres hospitaliers, d'aller voir les équipes qui sont en rétention, à attendre leur vie, que les patients soient triés. Fait que je vais discuter avec les équipes, voir comment ça va. Fait que je les appelle le petit cheer-up, là. Donc, aller discuter comment ça va, après des gros appels aussi.
Fait que t'es dans le garage, des ambulances, à l'hôpital.
Des fesses assis, oui, absolument. Dans le truck de superviseur.
Jaser à l'intérieur de l'ambulance.
Absolument.
OK.
C'est vraiment le fun.
Puis, t'es-tu surchargée de demandes? Est-ce qu'il en manque des ressources en santé mentale dans ces domaines-là? Parce que c'est ce qu'on entend au Québec en général, là.
Il en manque. La particularité, puis c'est pas pour me vanter, mais la particularité, c'est de comprendre leur métier. Moi, j'appelle ça Ginette du programme d'aide. Là. La madame bien gentille qui veut les aider, mais qui pleure plus que Dany qui vient me conter son trauma. C'est pas bien inutile. Puis je suis pas plus fine que les autres. Moi, c'est parce que je fais du trauma. Fait que souvent, c'est d'avoir une connaissance de leur réalité, d'avoir une connaissance de leurs horreurs, de comment ils fonctionnent, de à quel point ils ont un humour louche.
Tu dis humour louche, est-ce que c'est un humour noir parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix de créer une distance avec tes événements?
C'est noir fluo. Oui, c'est, ouais, hein? Ouais, c'est très... Mais c'est drôle parce que, je veux dire, quand on est juste entre nous, c'est correct. Évidemment, si on fait pas ça devant les familles...
Faudrait pas que ça sorte
non.
En public!
Oh non, non, il y a des gens qui perdraient leur job. Moi inclus. Donc, c'est ça. Mais c'est une façon de prendre une distance, mais c'est aussi une façon de créer du lien. Fait que moi, j'encourage au bout de l'humour, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Honnêtement, c'est un facteur de protection incroyable. On en parlait tantôt, on a un petit humour particulièrement louche dans l'urgence.
Ouais. Quand on est travailleur social, est-ce qu'on doit régulièrement se former comme les psychologues, comme les psychiatres? C'est de la formation constante, à ce qu'on me dit, là?
Oui.
C'est la même chose pour les travailleurs sociaux?
Même chose, on a des heures de formation continue à faire à chaque 2 ans. Nous, c'est la période de ces 2 ans.
Puis qu'est-ce qui change?
Le trauma, on a compris tellement de choses. Moi, quand j'ai commencé, le trauma, c'était un trouble anxieux. Maintenant, c'est un trouble de stockage dans la mémoire. Donc, c'est vraiment d'être à la fine pointe des connaissances. Je disais science tantôt, là, pour moi, c'est vraiment important d'être connecté sur la science, sur les bonnes pratiques. Puis aussi, je vais le dire comme ça, j'enseigne à l'université, je dis ça à mes étudiants, de ne pas être juste une madame gentille qui dit oh, « ça n'a pas l'air facile ce que tu vis ». T'sais, pour moi, ça, c'est pas du travail social. Ouais. Là. Nicole, au bureau en gros, peut me dire ça. Donc, c'est d'aller plus loin, de creuser avec la personne, de donner du sens à ce que la personne nous dit aussi. Fait que oui, ça prend de la formation continue sur les bonnes pratiques, sur les interventions, comment on intervient. Là, je parle dans le trauma, mais c'est n'importe quel sujet, c'est ça aussi. Au niveau du développement de la personne aussi. Donc, je pense que c'est super important d'être à jour.
C'est une drôle de question, mais comment on intervient? Je sais que toute personne est différente, là, mais mettons, y a-tu des outils particuliers? Y a-tu des phrases magiques?
Surtout pas. Ben moi, je travaille avec une approche qui s'appelle l'approche narrative. Donc, c'est beaucoup avec les mots que les gens vont employer. Comment tu me décris ta situation? Donc, si tu me dis « ça a vraiment été de la merde pour moi, cet appel-là », ben je vais repartir de « tu viens de me dire ça a été de la merde ». Qu'est-ce que tu veux dire par « ça a été de la merde pour toi, cet appel-là » Donc, on va creuser ensemble les mots que tu utilises pour aller donner un sens à ce que tu viens de m'exprimer. Ce que j'ai fait dans mes débuts, c'était des reflets. Tu sais, j'étais bébé TS un moment donné. Tu sais, de faire des reflets à un policier qui m'a dit qu'il était en tabac. Compléter la phrase ici. Puis moi, je fais un beau reflet du genre « Ah oui, tu es en colère. » Et ben, est-ce que j'ai compris la différence entre colère et tab? Donc, ça, c'est minimiser l'émotion. On ne fait pas ça. Julie, 21 ans, on ne fait pas ça. Donc, on apprend de nos erreurs, heureusement. Donc, de travailler avec... Puis c'est pour ça que dans mon domaine, c'est important de connaître le langage. Parce que si Dani me dit qu'il y a eu un 11-10 hier, puis que le 11-10 était vraiment tough...
C'est quoi un
11-10? Meurtre premier degré. Okay. Fait que moi, je comprends le code que Dani vient de me donner. On est capable de créer un lien rapidement. Dani va faire « Ah, elle connaît ça, finalement, à mon milieu. » Puis c'est pas stagé, c'est plus de dire on a une langue commune.
Il y a une confiance qui se crée. Puis y a-tu des outils? Je pense à l'entourage. Là.
Ouais.
T'sais, mettons, moi puis Yann, là, dans un monde très, très lointain, on serait ensemble. Puis il est policier, tu comprends, ou il est ambulancier, ou peu importe. Puis il vit quelque chose.
Son non-verbal a de la misère.
Oui, c'est dans un monde très parallèle. Okay.
T'aurais pu prendre un autre exemple.
Moi puis Dani, en plus, ça marche, il était policier pour vrai. Moi puis Dani, on est ensemble, puis Dani revient à la maison, puis il est choc post-traumatique de plein affaires dans sa carrière, puis ça a des répercussions sur notre quotidien à nous. Est-ce que tu vas jouer là-dessus aussi, l'entourage, la personne qui est choquée?
Pas plus tard qu'un matin, j'ai eu une conjointe d'un de mes clients qui m'a appelé justement pour ça. Donc, on va essayer de donner des trucs à la famille, mais c'est pas à la famille à devenir le thérapeute. Puis, tu sais, je voudrais pas que les gens assument ça. Puis, c'est pas de raconter l'événement graphique. Dani, là, ça y servira à rien de raconter à sa conjointe comment ça saignait, puis etc. Il va juste briser sa conjointe. Il faut pas, moi, j'appelle ça brasser de la soupe traumatique. Il va plus avoir besoin, peut-être, qu'est-ce que t'as besoin, Dani? Tu sais, donc, comme conjointe, t'as-tu besoin de temps? T'as-tu besoin d'espace? T'as-tu besoin de te changer les idées? Donc, de revenir à la base de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Fait que l'entourage, pour moi, là, c'est de leur donner les outils, les ressources, d'expliquer qu'il y en a des ressources. Je parle de la vigile tantôt. Il y a plein de ressources qui sont là, mais il faut les connaître. Fait que nous, on devient des facilitateurs aussi à ce moment-là pour les familles, les proches.
J'ai Frank qui nous écrit, j'ai changé son nom. Salut, je veux juste dire à Julie un gros merci pour ton service comme intervenante. Moi, je suis un ex-policier militaire. Je suis sorti post-traumatique et avec troubles anxieux. J'ai eu le diagnostic en 2016. Ça m'est arrivé dans l'armée parce que j'ai trouvé un ami proche qui s'est malheureusement enlevé la vie.
Mon Dieu.
C'est moi qui l'ai trouvé. Je me suis fait traiter de tous les noms possibles et j'ai pas eu beaucoup d'aide à cette époque-là. C'est suite à des tentatives où j'ai tenté de mettre fin à mes jours que j'ai commencé à avoir de l'aide aux civils. Bon, Frank a dit merci beaucoup pour ton service, là. Fait que je trouve ça intéressant comme commentaire. Mais oui, j'en ai souvent entendu parler de ça. Je parlais avec un gars en entrevue il y a quelques années qui est devenu une bonne connaissance avec qui je fais de la plongée sous-marine maintenant. Lui, quand il est sorti de l'armée canadienne, il finissait une mission. Il était avec ses enfants aux galeries de la capitale, puis il cherchait les snipers, ces galeries en haut. Il rentrait aux galeries de la capitale avec ses enfants, là, mettons par le Best Buy.
Oh
là.
Mon Dieu!
Puis quand il est arrivé à la hauteur de l'ancienne patinoire, ben, il y a comme d'autres paliers. Ouais. Là, il cherchait des snipers possibles en haut, puis il s'est rendu compte que là, même s'il avait sorti de l'armée, c'était le temps de demander de l'aide parce que sans quoi il s'en serait probablement jamais remis.
Mais c'est un très bon exemple d'hypervigilance. Puis juste pour vous donner une anecdote, tantôt, Daniel et moi, on était assis en bas à prendre un café, puis un gars qui est passé qui avait des caractéristiques particulières qui a fait que les deux, on s'est détournés. Daniel avec subtilité, moi avec zéro subtilité. Et on voit que l'hypervigilance, ça fait partie des métiers d'urgence. Fait qu'à la base...
Mais fallait bien que je passe, fallait que je vienne travailler.
Ben oui, mais c'était... C'était correct. On a fait semblant qu'on t'avait pas connu, Yann.
Un méchant fucké, hein?
Mais c'est juste pour montrer qu'il y a une déformation qui est une hypervigilance conditionnée. Mais il y a aussi une hypervigilance, comme tu viens de nous décrire avec ce militaire-là, qui va faire en sorte que son fonctionnement social, donc au quotidien, il va épuiser énormément d'énergie à toujours être à la recherche de sons, d'images. Mmh. Et si je peux juste donner un message à la population, là, ça va me faire plaisir, j'utilise votre tribune un matin. Si vous connaissez des intervenants d'urgence, prière de ne pas leur demander leur pire appel, vous allez les replonger dans le trauma et leur faire vivre des émotions fort désagréables. Je ne suis pas capable de cette question-là, je me désorganise à chaque fois. On les remet dans le trauma et là, on réactive des mécanismes sensoriels d'odeur, de son, d'image que les gens n'ont pas envie de revivre. Demandez-leur l'appel où ils se sont sentis le plus utile, le plus drôle, peu importe, mais s'il vous plaît, arrêtez cette question-là.
Hey, mais c'est bon que tu dis ça, Julie, parce que honnêtement, puis je pense qu'on peut plaider coupable en motadine des médias, c'est une question qu'on pose facilement parce qu'on est curieux. T'sais, on essaie, je pense, de saisir à quel point le métier peut être difficile, puis on est à la recherche d'histoire parce qu'on connaît pas justement ce domaine-là. Fait que
mais on les replonge. Puis c'est ça qu'à chaque fois que ça me choque parce qu'on appelle ça de la trauma porn en anglais. Donc, on va aller se nourrir d'images, de sons, d'histoires des gens. Je me la fais poser souvent aussi. Je ne vais pas répondre à cette question-là, un, parce que j'ai un secret professionnel, mais deux aussi parce que j'ai peut-être pas envie de revivre les émotions qui vont avec X, Y, Z d'intervention.
Ouais.
Donc, c'est la même chose au niveau de nos intervenants. C'est
on le réalise pas. Pratique. On le réalise pas souvent. En parlant avec Maître Bellemare, moi, j'ai appris Bellemare a encore des clients qui ont été victimes en 1984 de Denis à l'Assemblée nationale.
Oh, Seigneur.
Oh.
Fait qu'à chaque fois que, mettons, en 94, c'était les 10 ans,
les 10 ans.
Denis Lortie. Mettons, en 2004, c'était les 20 ans. Ben, à chaque fois, Bellemare avait des appels comme quoi ses clients allaient vraiment pas bien. Fait que ça les replongeait parce qu'on en parlait. Mais c'est correct d'en parler, mais on ne connaît pas toujours les impacts que ça peut avoir
puis on réalise
chez
pas,
les
en fait,
victimes. Ben non.
Parce que c'est notre genre là, de chercher ce genre d'histoire-là, pas pour faire une histoire, mais pour comprendre puis essayer de je vais dire, tu sais, je vais prendre ton exemple, Yann, mais écoute, moi, je plaide coupable. Ce serait mon genre de vouloir recevoir quelqu'un qui a survécu pour essayer de faire vivre l'histoire aux gens. C'est arrivé pour vrai. Voici ce qui est arrivé. Regardez les impacts sans penser que la personne peut revivre ça intérieurement.
Mais qu'elle parle des impacts, moi, tu sais, des témoignages de gens qui sont allés chercher de l'aide, des témoignages de gens qui ont passé par-dessus des épreuves en résilience, c'est magnifique. C'est les détails sensoriels qui sont pas utiles. Et c'est cette partie-là qu'on appelle trauma porn. Et c'est là qu'à chaque fois, on réactive. Vous posez une question comme ça, la personne, l'odeur va lui revenir, les sons vont lui revenir, l'image va lui revenir, le goût va y revenir, la chanson qui passe à la radio dans son char pendant qu'elle y allait. Mmh. Tout ça, on la remet dans sa situation et on la replonge directement dans l'émotion vive du moment. C'est tellement pas utile.
J'ai le goût de vous dire, si vous avez une curiosité morbide, là, lisez le livre « Cœur policier ». Je pense qu'on est rendu à trois tomes de ce livre-là.
Oui.
Et moi, je suis une grande fan. Là, de... Puis le nom de l'ancienne journaliste qui a écrit m'échappe. Là. Mais,
c'est son nom de famille, c'est Fallu.
Fallu, Anne-Marie Fallu, ça se peut-tu?
Dans le nom composé, oui.
Je vais... Cœur policier, on va le taper, ça va être plus facile. Cœur policier, c'est 30 histoires de policiers, soit à la retraite ou encore actifs. On les nomme quand ils sont à la retraite, on ne les nomme pas quand ils sont encore
Marie-André Fallu.
Marie-André Fallu, merci. Puis ça en est des histoires, justement, très, très morbides, marquantes. Puis c'est super intéressant pour le commun des mortels, je vais le dire comme ça. Puis ça va peut-être nous éviter, effectivement, de poser ces questions-là à notre entourage.
Okay. Si je ne peux répéter que ça, je vais être heureuse.
Pour nos policiers, ex-policiers, ambulanciers, ex-ambulanciers, militaires, ex-militaires, on peut s'adresser à toi directement sur ton site Internet?
Oui, ou sinon la Vigile, 1-888-315-0007. C'est comme James Bond avec un zéro de plus. 24-7-365 par année.
Ça a été un plaisir de jaser avec toi, Julie. T'es franchement intéressante, Julie Nadeau. Puis ben, au plaisir de te recevoir dans quelques semaines, quelques mois.
Game d'en revenir. Écoute, je vais prendre ton numéro de téléphone. Là.
Puis t'es bonne en plus. 11h10, on s'arrête. Boulevard 102.1.